Bonjour à toutes et à tous. Vous savez tous, sans doute, que l'évangile de Jean est une sorte de plaidoyer, comme au tribunal, un plaidoyer construit autour de 7 signes opérés par Jésus. 7 signes. Un plaidoyer qui se termine au chapitre 20 par ces mots. Je vous écris ceci afin que vous croyiez. Vous êtes le jury de ce tribunal. Vous êtes invité à vous prononcer après ce plaidoyer au sujet de Jésus. Afin que vous croyiez que Jésus et le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, on ne va pas travailler les 7 signes, ce serait peut-être un peu long, mais je vais prendre le troisième. Il se trouve au chapitre 5 de cet évangile de Jean. Je crois qu'on l'a mentionné dimanche dernier. Non ? Il s'agit de la guérison de l'infirme à la porte de Bethesda, la maison de la grâce, de la miséricorde. Alors on va lire ces 18 versets du chapitre 5 de Jean. Excusez ma voix. Elle est un peu couverte, comme le ciel breton. Après cela, il y eut une fête des Juifs à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là était un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus. » On peut traduire par « réveille-toi ». C'est le verbe grec qui désigne la résurrection, en fait. « Réveille-toi. Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Admirez le cocasse de la situation. 38 ans, infirme. Le jour où il se lève, c'est pas le bon jour. C'est la religion. Hein ? Si j'osais, je vous raconterais une histoire corse, mais bon. Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : lève-toi et marche. » Ils lui demandèrent : « Qui est l'homme qui t'a dit : prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit : « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses horribles le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit : « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Seigneur, que ton esprit nous assiste à la méditation de cette histoire, ce texte. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Je vais essayer de lire ce texte ce matin comme révélant, au-delà des acteurs, un affrontement, un combat entre deux règnes, entre deux mondes. Il y a le monde ancien dont nous parle notre cher président, de temps en temps. Il apporte le monde nouveau, lui. Bon, enfin, bref. Le monde ancien, qui est celui de la religion, je dirais peut-être de la religiosité, mais quand même de la religion, et pas seulement la juive. Toute la religion du monde, les religions du monde fonctionnent, toutes, sur les mêmes bases. Et l'évangile, c'est le combat de Dieu contre les religions. Je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais c'est comme ça. L'évangile est le combat de Dieu contre les religions. Et pour que la foi advienne, la religion et la foi, ça fait deux. Un affrontement contre le monde des croyances. Un monde habité par toute espèce de force mystérieuse, toutes sortes de pesanteurs spirituelles, de croyances malsaines, comme par exemple la réincarnation, qui est d'ailleurs très proche de l'immortalité de l'âme comme étant automatiquement en possession de chacun. Nous savons que l'immortalité, c'est le cadeau de Dieu. Ce n'est pas en nous, naturellement. Mais ça ressemble comme une goutte d'eau aux doctrines de la réincarnation. Il y a aussi le destin inévitable, ce qu'on appelle le fatum, qui a donné fatalité. Certains prennent la foi pour l'acceptation de ce qu'on ne peut pas éviter. Ça, c'est la fatalité. Ce monde ancien est aussi dominé par l'image d'un Dieu vengeur qui rétribue le bien par le bonheur et le mal par la mort et son cortège de souffrance et de peur. Vous connaissez le livre de Job, qui est aussi un plaidoyer contre cette idée reçue. Ça ne marche pas forcément comme ça. Alors on cuisine Job pour lui faire cracher le morceau. On lui dit : « Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'arrive tout ce qui t'est arrivé ? Moi, je n'ai rien fait, je ne comprends pas. » Et il va résister à cette idée d'un Dieu qui se venge forcément du péché dans le malheur des gens. En cela, le livre de Job prépare l'évangile. Et Jésus arrive, il voit cet homme, il le voit. Comment Jésus le voit-il ? Comment les autres voyaient-ils cet homme ? Selon cette logique de la rétribution, justement. Il est malade, il est infirme, il n'y arrive pas, il ne s'en sort pas. Donc, forcément, il est coupable. Combien de fois dans ma vie de pasteur, enfin, pas si souvent que ça, mais quand même quelques fois, j'ai entendu des gens qui demandaient la guérison au Seigneur, ne l'ayant pas obtenue, on les encourageait en disant « T'as manqué de foi, t'as péché ». C'est assez terrible, hein ? Alors, voilà. À grands traits, le monde ancien, où, comme Jean le précise, était couché. Ils n'étaient pas debout. La résurrection, c'est être debout. Mais eux, ils étaient couchés en grand nombre. Des malades, des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Ce n'est pas exhaustif. J'ai pensé à ce verset que cite Matthieu au chapitre 4. « Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. » Alléluia. Le récit de Jean dresse donc comme un tableau de l'ancien monde, qui est ainsi marqué par d'autres tares, comme le chacun pour soi. Seigneur, je n'ai personne. L'individualisme. Un monde marqué par l'obscurantisme. Il y a des temps favorables et il y a des temps bénéfiques. Et on passe sans autre à des temps défavorables, néfastes, qu'il faut chercher à prévoir par la divination. Les grands généraux, les grands présidents consultent les augures, les devins, avant d'entreprendre tel combat ou de décider telle ou telle chose. Et ce n'est pas seulement du passé. Vous savez que notre bon vieux Chirac voyait... Non, c'est Mitterrand. Qui voyait Madame Tessier et Madame Désastre, là ? Eh ! Madame Désastre ! Smile. Ce monde est soumis à l'aléatoire. D'où le succès des horoscopes, l'astrologie, etc. Ça, c'est le monde ancien. C'est le monde des malédictions, des tabous de toutes sortes. Vous allez vous dire, mais pourquoi il dit ça à partir de ce texte ? Hein ? Alors, je vais peut-être en choquer quelques-uns. Mais moi, cette histoire d'ange qui vient de temps en temps faire bouillonner la piscine... Je vous assure que je suis très prudent avec ça. D'ailleurs, le verset est entre crochets. Ça veut dire qu'il ne figure pas dans toutes les versions. Un ange venait de temps en temps. Alors c'est la ruée, la bousculade, c'est les soldes. On rase gratis. Et puis ceux qui n'y arrivent pas, ben, ils sont laissés de côté. Ça, c'est le monde ancien. C'est probablement la rumeur partagée par beaucoup, cette histoire d'ange qui vient faire bouger l'eau. Et puis cette eau devient tout de suite miraculeuse, mais pour un seul. C'est un peu chiche, non ? Alors qu'il y avait tout ce monde qui attendait. Est-ce que ça vient de Dieu, vraiment, ça ? Moi, franchement, je vous dis, je me pose la question sur ce détail-là. Il faut dire que notre époque moderne offre bien des points de ressemblance avec cet ancien monde. Les croyances anciennes ont la vie dure. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ? Oh que oui. L'Évangile, c'est la nouveauté. C'est vraiment du neuf. Voici, dit le Seigneur, je crée du neuf. Il fait toute chose nouvelle. Et en dehors de lui, ben, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le monde sans Christ, sans le secours de Dieu, sans que les êtres humains se tournent vers l'Évangile, restera prisonnier de ses démons, de ses croyances, de ses fantasmes, de ses terreurs. L'irruption de Jésus à la piscine de Bethesda me parle vraiment de cette arrivée brutale de la lumière au cœur des ténèbres, de Jésus dans l'ancien monde. C'est l'arrivée du monde de la foi qui ne se confond pas avec celui de la religion. C'est le nouveau temps de Dieu. Vous savez, il paraît qu'en grec, je ne suis pas helléniste, hein, mais il y a deux mots pour le temps, en tout cas deux. Il y a le chronos. Boum. Et puis il y a le kairos, qui est un événement. Un événement. Jésus, c'est l'événement de Dieu. L'avènement de Dieu. L'événement nouveau qui vient tout changer. Avec Jésus sonne l'heure de l'ouverture d'un combat entre le nouveau monde et l'ancien. Ce combat se conclura et sera rendu évident à Golgotha. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu des ténèbres pendant 3 heures sur le mont Golgotha. Il s'agissait là d'un combat qui dépasse tout entendement, où l'ancien monde est englouti dans la mort de Jésus. Mais vous me direz, ben, il semble quand même encore en assez bonne santé, hein, l'ancien monde. C'est là qu'il faut comprendre que nous vivons en tension entre déjà la victoire est là. Christ est vainqueur, mais ce n'est pas encore totalement visible. Ce n'est pas encore évident. Et il nous faut donc ramer sous cette tension pour ne pas se décourager, pour persévérer dans la foi, pour confesser joyeusement le nom de Jésus, notre Seigneur, notre souverain maître. Jésus est d'ores et déjà vainqueur. Ça a été une phrase qu'on a trouvée dans la dernière lettre de Dietrich Bonhoeffer, qui a été pendu par les nazis. Jésus est vainqueur. Alors, au milieu de cette foule anonyme, Jésus distingue un homme particulièrement mal pris. Il le voit, comme il te voit, comme il nous voit tous et chacun et chacune. C'est important de savoir ça. Je suis vu par lui. On aimerait le voir, nous, lui. On aimerait le voir, non ? Mais lui nous voit. Et c'est suffisant déjà. Nous le verrons, c'est clair. Certains l'ont vu, c'est vrai. Quelques privilégiés qui ont eu une révélation de Jésus pendant leur vie ou à l'occasion d'un coma. Tu connais Jean-Claude Chablot ? Il m'a envoyé un petit mot à l'occasion de la nouvelle année. Et il a passé par une greffe de rein l'année passée. Il est allé à l'hôpital. Et à un moment donné, il a fait un coma. Et il dit qu'il a rencontré le Seigneur. Il l'a vu là. Ça lui a fait du bien. Voilà. 38 ans d'attente déçue font que s'installe une sorte de fatalité. Mais Jésus est l'anti-fatalité. Alléluia. Jésus est l'anti-fatalité. C'est pourquoi il demande à cet homme, veux-tu être guéri ? J'ajouterais, j'ai presque envie d'entendre un petit mot de plus. Veux-tu encore être guéri ? Et ça, c'est merveilleux parce que on voit que Dieu nous inclut. Il inclut cet homme dans le processus de guérison. Et il demande à nous inclure, nous aussi, par notre confiance et notre volonté. Qu'est-ce que nous voulons ? Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie ? Qu'attendons-nous ? Certes, le Seigneur est plein de bonnes intentions, sa volonté est parfaite, mais il nous demande si on est d'accord. Si tu ne baisses pas les bras, si tu ne renonces pas, alors que veux-tu ? La parole de Jésus interrompt la routine des jours de cet infirme. La parole de Jésus court-circuite le discours culpabilisant religieux. Elle brise le silence de la mort et bouscule les traditions religieuses, dont le sabbat, à l'époque, était la plus sensible. Je vous ferai remarquer que là, Jésus ne dit pas « il faut finir avec le sabbat », mais il en change la nature. Il en change la nature. Ce n'est plus une attitude extérieure, c'est vraiment un repos de la foi sur la volonté de Dieu. À ses adversaires, Jésus répond juste après « Mon Père travaille jusqu'à présent dans la continuité de son œuvre de salut. » Le travail de Dieu n'est pas de temps à autre, comme l'ange, justement. Le travail de Dieu n'est pas imprévisible, provoquant une soudaine ruée dont les plus lents étaient systématiquement écartés dans les marges. Aucun délai, fût-il sabbatique, légal, ne peut s'interposer à l'agir de Dieu qui a compassion de cet homme. La dignité humaine prime sur les observances, même celles fondées sur la loi. Et là, je ne vous dis rien d'autre que ce que disaient les rabbins. Quand la vie de quelqu'un est en danger, eh bien, on peut transgresser le sabbat. Mais Jésus va encore plus loin, en fait. La volonté de Dieu n'est plus cachée, aléatoire. Jésus la rend manifeste et toujours actuelle. Toujours actuelle, la volonté de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, nous l'avons chanté des centaines de fois. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Oui, Jésus ne change pas. Pourquoi ? Mais pas seulement parce qu'il est ressuscité, mais parce qu'il incarne la volonté salvatrice de Dieu. Et cette volonté salvatrice de Dieu n'a pas faibli. Elle n'a pas cessé. Elle continue. Alors, frères et sœurs, bon courage. Continuons le combat avec Jésus. La mort et la résurrection de Jésus ont débarrassé l'univers de ses vieux enchantements. La croix de Jésus a désenchanté le monde, c'est-à-dire qu'elle l'a vidé de toutes ses puissances, toutes ses dominations, toutes ses chimères, tous ses fantômes. La mort de Jésus a purgé le ciel de Dieu de toutes ces entités spirituelles qui nous faisaient autrefois si peur. Désenchantement du monde. Dieu agit souverainement, librement, sans partage. Aucune puissance, aucun être malfaisant ne peut l'empêcher d'agir. Le nom de Jésus fait fuir les démons. Il arrache les siens au règne des ténèbres et il les transfère dans son règne. Il fait passer les croyants de la religion à la foi. cette foi nous unit, elle crée une fraternité. Alléluia. Il faut remarquer la soudaine disparition de Jésus de la scène de l'Évangile. Ça m'a interrogé. Moi, je crois que Jésus ne voulait pas capter l'attention sur sa personne. Parce que dans son discours à ses adversaires, il se déclare totalement en accord, en dépendance avec le Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est pourquoi il disparaît de la scène, parce qu'il ne veut pas détourner la gloire de cet acte glorieux de son Père. Il veut laisser la place à la glorification du Père. Il s'efface devant la révélation de la parole qu'il annonce. Cette attitude est radicalement nouvelle aussi. D'autres auraient cherché à occuper le devant de la scène. Vous rappelez le récit de la guérison de l'impotent au temple dans le livre des Actes, avec Pierre et Jean. Aussitôt, cet homme est guéri, il saute, il chante, il est dans le temple, on l'accourt. Et puis, tout le monde fixait les apôtres. Et les apôtres remettent les bidons d'aplomb. Mais pourquoi vous nous regardez, nous, comme si c'était nous, notre piété, qui ayons fait marcher cet homme ? Le Dieu de nos pères a visité son peuple, etc. C'est exactement la même attitude. Jésus se retire de la scène. Peut-être, je vous l'accorde, l'ambiance n'était pas franchement à la sécurité pour lui. Il était recherché, hein ? Donc, il ne voulait pas donner une occasion trop belle à ses adversaires de mettre la main sur lui, de le jeter en prison ou le mener à la mort. En tout cas, pas pour le moment. C'était pas l'heure. Mais là, j'aime bien voir cette attitude de Jésus. Elle est très différente de l'attitude de certains autres hommes qui profitent parfois de l'éclat de leur ministère pour se faire un peu... Vous voyez ce que je veux dire ? Non ? Bon, tant pis. Une dernière chose. Un horizon plus lointain se dessine encore. C'est Jésus qui parle. « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de crainte qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors là, moi, franchement, je vous avoue, ce verset m'a longtemps gêné. Parce qu'il semblerait affirmer qu'il veut utiliser le motif de la peur pour obtenir l'obéissance. Vous comprenez ? Et ça va à l'encontre de l'annonce de la grâce qui libère. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça ? Alors, en réfléchissant un petit peu, je pense que Jésus invite plutôt l'homme guéri à interpréter correctement ce qui vient de lui arriver. Sa guérison est le signe d'une puissance, d'une résurrection. Réveille-toi ! C'est plus qu'un simple miracle, ne débouchant sur rien d'autre que le présent, ce dont il a bénéficié, comme tous les signes opérés par Jésus, sont des actes, des paroles en actes. Et elles invitent à se mettre en route sur le chemin de la confiance et pas sur celui de la peur. Là, je pourrais développer tout le discours de Paul. C'est pour la liberté que le Christ vous a affranchi. Ne devenez pas esclaves des hommes. C'est vrai que les églises du temps de Paul était parfois tenté à un retour, par un retour vers des précautions religieuses, alimentaires. Vous observez les jours, les mois, les années, alors j'ai travaillé pour rien, moi. Et Paul voit rouge. La lettre aux Galates aurait dû être écrite avec de l'encre rouge. Bip, bip, attention, danger. Ne devenez pas esclaves des hommes, écrit Paul à des chrétiens tentés d'en revenir à la religiosité ancienne, faite d'interdits, comme les observances sacrées, alimentaires, temporelles, vestimentaires, etc. Est-ce que nos églises ont toujours été tout à fait claires là-dessus ? J'en suis pas sûr. Voyez-vous ? Peut-être maintenant. Hein, t'es pas. Comme les Israélites étaient parfois tentés de retourner en Égypte et d'y retrouver une sécurité alimentaire, alors que dans le désert, il faut dépendre de Dieu. C'est pas le plus facile. Hein, en un mot, nous sommes appelés à suivre Jésus, comme cet homme-là était aussi. Ne pêche plus, ça veut dire suivre Jésus. Ou suivre Jésus, c'est ne plus pécher. Voilà, le fin mot de l'histoire. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire ? Après 38 ans de grabat, la mort peut-être ? Mais je ne pense pas que Jésus utilise ce réflexe. Il l'encourage à venir après lui. C'est ce que veut dire « ne pêche plus ». N'est-ce pas ? Dans l'épître de Jean, je crois, qui dit que celui qui est né de Dieu ne peut plus pécher. Parce qu'il est dans la trace du Fils bien-aimé. Il est dans la trace et dans les mains aussi du Fils qui plaît au Père parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Suivre Jésus, c'est ne plus pécher. Notre monde actuel a encore besoin de la visite du Christ. Eh bien, c'est nos pieds, c'est nos mains, c'est nos voix, c'est nos vies qui amènent, en quelque sorte, Jésus-Christ dans la société. Ce n'est pas un homme, vous savez, le monsieur en blanc, là, avec une petite kippa en blanc. Ah, ce n'est pas une kippa, non. Pardon. Lui seul, il n'est pas la présence de Christ. C'est un de ceux qui rappellent l'Évangile. Il ne le fait pas trop mal, celui-là. C'est bien, on peut mieux faire. Mais nous tous, là où nous sommes, à la maison, à l'école, à l'atelier, partout où nous sommes, nous portons avec nous le témoignage du Christ. Briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Donc l'éruption du monde de Dieu dans l'ancien monde, ça continue. Et il y a encore du boulot. C'est un chantier, ouais. Mais les églises sont là pour ça. Voyez-vous, pour moi, l'évangélisation, certes, ça peut être un discours sur l'estrade, mais c'est beaucoup plus une présence contagieuse, virulente, mais dans le bon terme. N'est-ce pas ? C'est nous, jour après jour. Une poignée de main, un sourire. Voilà. Je ne sais plus quel philosophe disait que il croirait volontiers les chrétiens s'ils avaient l'air un peu plus joyeux. Mais c'est vrai que la joie du Seigneur, ça se voit, ça se contamine, ça se communique. Ce n'est pas des choses héroïques, toujours. Il n'y a pas besoin de se déplacer, faire des milliers de kilomètres. Parfois, oui, mais pas toujours. Nous sommes là où nous sommes, l'irruption du royaume de Dieu dans le monde. Bethesda, ça continue. Amen. Bénis ta parole, Seigneur. Aide-nous à demeurer dans cette communion parfaite avec toi, comme l'a été Jésus. Veuille pardonner nos petites lâchetés. Aide-nous dans nos moments de doute, dans nos questionnements. Rends-nous fermes dans la foi et que ton amour nous remplisse. Nous remplisse de cette compassion que tu as manifestée et que tu as encore pour notre monde. Amen.